ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Alléluia. C'est un passage que je crois que plusieurs ont quand même mémorisé, n'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui ne vont pas mémoriser. Oh, vous allez le mémoriser à partir d'aujourd'hui. Si cette année tu peux le retenir, ça va te faire du bien. Est-ce qu'on peut se lever et déclarer cette parole? Lis-la comme si c'était une prière. Lis-la comme si c'était de toi qu'il s'agissait. Amen. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Une, deux, trois. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Encore une fois, s'il vous plaît. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Le titre de ce matin, c'est « Mon serviteur prospérera ». Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous croyons à ton shalom en ce lieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence maintenant repose dans chaque cœur. Il y a un cœur qui est venu troubler ce matin, mais je te déclare la paix de Dieu. Je déclare le shalom de Dieu sur tes circonstances. Je déclare la paix de Dieu sur cette situation qui te dépasse. Que la paix de Dieu maintenant transcende toutes choses et dispose ton cœur à recevoir ce qu'aucun homme ne peut te donner. Sois béni par cette parole. Seigneur, merci pour tes anges qui montent et descendent. Merci pour une atmosphère de gloire. Merci, Saint-Esprit. Je diminue, que toi tu puisses croître. Oh Dieu, ce n'est pas moi qui parlera, mais c'est toi qui parleras au travers de ma bouche. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon serviteur prospérera. Je vous dis tout de suite en passant que la vie a été conçue pour être prospère, afin de refléter l'image de celui qui l'a créé. Car celui qui a créé la vie est prospère. Amen. Parce que une création ne peut que ressembler à son créateur. Amen. Si Dieu est prospère, ce qui crée est prospère. C'est ainsi qu'après avoir créé toute chose, il vit que cela était bon. En quelque d'autre sorte, il vit que cela était à l'image de ce qu'il était. Bien-aimé, refuse quelque chose qui ne reflète pas le Dieu qui t'a créé. Et des fois, à un moment, tu t'arrêtes sur ton parcours, tu dis, mais ça ne ressemble pas à mon Dieu. Non, ça doit s'arrêter. Amen. À moins que ton image de Dieu ait tout autre. Et moi, je crois un Dieu puissant, un Dieu glorieux. La prospérité du juste glorifie Dieu. Amen. Toute la création a reçu le mandat de prospérer. Une plante en elle-même a reçu le mandat de prospérer, de porter des fruits. Dès qu'elle existe, elle a reçu le mandat de prospérer. Ton corps a reçu le mandat d'être en bonne santé. Est-ce que vous savez une chose que les médecins ne guérissent pas? Et même dans le serment qu'ils font, il faut un serment de ne pas guérir les gens. Ça vous étonne peut-être. Ils font le serment de soigner, de maintenir, mais pas de guérir. Les médecins ne prétendent pas guérir qui que ce soit. Aucun d'entre eux. Donc même les médicaments qu'ils te donnent, ce n'est pas pour te guérir, mais pour te soigner. Mais il n'y a qu'une seule personne qui guérit. Et cette personne a mis dans ton corps le mandat d'être en bonne santé. C'est ainsi que les médecins peuvent assister par quelque chose, mais le corps a reçu le mandat, l'autorité de s'auto-guérir. C'est pour ça qu'à un moment, les médecins vont te donner quelque chose, mais à un moment, ils vont dire, on va laisser ton corps faire la suite. Comment tu vas réagir? C'est ce qui va donner ce système immunitaire. Et il n'en est pas ainsi, il a mis ça dans chaque aspect de ta vie. Dans ta vie relationnelle, dans ta vie financière, tu as reçu le mandat de prospérer. Mon serviteur prospérera. Quand nous rentrons dans le contexte de ces sept écritures, cela donne le portrait du Messie. du Messie qui devait venir. Le prophète Ésaïe était en train de prophétiser ceci 500 ans avant la venue du Messie. Quand vous lisez le chapitre 53 en entier et vous commencez par ce verset ici, on vous présente le portrait du Christ. Il est tellement détaillé ce que le Messie devrait faire, ce qu'il devrait faire, à telle enseigne qu'aucun imposteur ne pouvait venir jouer ce rôle. C'était tellement précis que ça prenait seulement quelqu'un qui vient vraiment de Dieu pour accomplir toutes ces précisions-là. Amen. Ainsi, bien-aimé, Jésus-Christ est venu avec un message, avec une œuvre puissante, une œuvre qui est passée par l'humiliation et l'élévation, mais une œuvre qui a résolu le plus grand problème de l'homme, qui est le péché et la mort. C'est ainsi qu'on pouvait dire « Mon serviteur prospérera ». Mais je te pose une question. Quels sont les problèmes que tu résous? Car la prospérité de tout homme dépend des problèmes qu'il résout. Amen. Les gens se souviendront de toi à cause des problèmes que tu as résolus. C'est ce qui justifie même la prospérité d'un chacun. Amen. Et l'œuvre du Christ a apporté une multiplication. Plusieurs sont venus à lui. Mais c'est quoi la prospérité? Je vais d'abord vous dire ce que la prospérité n'est pas. Amen. La prospérité n'est pas une série de déclarations sans action. Je suis prospère. Non, arrêtons ces choses-là. Tu déclares, mais tu n'es même pas censé, capable de faire quoi que ce soit avec tes mains. Tu ne veux rien entreprendre, juste proclamer. Ah, je vais me marier, je suis beau, je suis ceci, je suis cela. Mais que fais-tu? Ce n'est pas ça la prospérité. La prospérité non plus n'est pas une série d'actions sans état d'âme. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté qui pensent que faire ce que les riches font va faire d'eux des riches. Essaye de faire ce que les riches font. Tu vas rester longtemps dans ta pauvreté. Mais oui. Ça prend un état d'âme. Amen. Ce que tu fais doit émaner d'un état d'âme. C'est-à-dire que ce que tu es, une pensée. C'est-à-dire que si tu n'as pas la pensée qui sous-tend cette action que tu es en train de faire, elle sera vaine. Alors on a des gens qui font, on vous dit, donnez, et vous allez prospérer. Mais des gens qui ont une mentalité de pauvreté, il peut donner comme il veut, il sera bloqué. Hey, ça fait combien de temps que tu donnes? Je te dis pour jeûner de ne plus donner. Mais donne dans un état. Oui, il faut qu'on équilibre les choses. Amen. Apporte ton offrande, apporte ton don, ta semence, mais qu'il y ait un état d'âme. Amen. La prospérité commence dans l'intérieur, dans l'état d'âme. Mon serviteur prospérera. Amen. Ainsi, bien-aimé, le dictionnaire va nous donner une définition de la prospérité. Mais je vais vous dire aussi, la prospérité n'est pas non plus quelque chose qui est juste centré sur toi-même. Tu peux multiplier des avoirs, mais si c'est juste à toi, la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Une prospérité qui ne te ramène pas vers Dieu, une prospérité qui ne te ramène pas vers ton prochain est vaine. Amen. Sous ton lit de mort, tu chercheras à être entouré des gens et pas de tes biens. Amen. Mais si tes biens ont servi à bénir plusieurs, personne ne manquera d'être là autour de toi. À tes jours les plus sombres. Alors la prospérité, selon le dictionnaire, on nous dit que c'est un état marqué par l'expansion et l'abondance. C'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de la santé. Et la Bible même déclare dans 3 Jean 1, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La Bible est en train d'évaluer la mesure de ta prospérité à la prospérité de ton âme, de ton être intérieur. C'est ainsi que la prospérité doit venir de l'intérieur et s'extérioriser. Ce n'est pas juste quelque chose que je veux dire sans faire quelque chose. Ce n'est pas juste quelque chose que je fais faire sans être quelque chose. Mais c'est quelque chose que je dois être afin de faire ce que je suis et d'avoir ce que je fais. Parce que notre Dieu est le grand je suis. Parce qu'il est. Il y a des actes qu'il pose. Et à cause des actes qu'il pose, il a certaines choses. Mais aujourd'hui, nous choisissons souvent de faire les choses à l'envers. Il y a des gens qui veulent beaucoup parler sans rien faire. Il y a des gens qui veulent beaucoup faire sans rien être. Amen. Ramenons les choses dans l'ordre. Ainsi, j'aimerais te dire, bien-aimé, que la prospérité, c'est être, faire et avoir tout ce qu'il faut pour accomplir ta destinée ou ton but. Amen. C'est être, faire et avoir tout ce qu'il faut pour accomplir un but. C'est là qu'on peut dire que tu es prospère. Amen. Et les Juifs vont généralement lier ce mot prospère, prospérité, au terme shalom. Amen. En passant, les Juifs sont les plus riches sur la terre. On est d'accord, hein? On peut le dire tout bas, mais on sait c'est quoi. Les médias, ils contrôlent. La science, ils contrôlent. Amen. Le divertissement, ils contrôlent. Amen. Il y a une bénédiction. Ils ont compris dans le shalom. Quand ils se saluent, ils disent shalom. Le shalom, là, veut dire paix. Mais bien aimé, la paix, c'est l'ingrédient principal de la prospérité. Il va te dire, est-ce qu'il y a le shalom dans ta maison? Est-ce qu'il y a le shalom dans tes affaires? Est-ce qu'il y a le shalom dans tes relations? Amen. Et vous verrez même que la ville, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem, cité de la vie, de la paix, de la prospérité. Et l'homme le plus riche qui ait vécu, vous savez comment il s'appelait? Salomon. Qui veut encore dire paix. Pour vous dire que, bien aimé, le shalom, la paix, est le commencement de toute prospérité. Et cette paix est d'abord intérieure. Amen. Car c'est seulement quand tu es en paix avec toi-même, en paix avec ce qui est ton environnement, en paix avec tes objectifs, en paix avec ta conscience, que tu peux bâtir quelque chose, que tu peux prospérer. Amen. Que tu peux être, faire et avoir tout ce qu'il faut pour accomplir tes buts. Amen. Il y a des termes qu'on va ajouter à la prospérité comme le progrès. La richesse, la réussite, le bien-être, l'aisance. Quand quelque chose a des résultats, des fruits, c'est là qu'on dit que c'est prospère. Mais ça doit commencer par un shalom, par une certaine paix. C'est pour ça que ce serviteur dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Mon serviteur prospérera. La Bible déclare que son nom sera le prince de paix. Je t'annonce la paix ce matin. Je te donne la paix comme pas le monde, comme le monde ne peut pas le donner. C'est pour ça que c'est la dernière parole que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Shalom! Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, on ne s'annonce plus cette paix. Vous n'avez jamais vu des gens avoir toutes sortes de millions, mais ne pas avoir la paix. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir la paix? Je regardais cette fille ici, Bobby Christina. Je priais pour elle, priais pour elle. Je regardais un peu l'historique, comment elle était exposée à la drogue que ses parents prenaient depuis l'âge de 5 ans. Et quand elle-même, à l'âge de 15 ans, elle a embarqué. À la fin de la vie de sa mère, la Bible, on nous montre même qu'elle avait le même dealer avec sa mère. Amen. Mais une fois, elle a fait un Twitter, elle a dit, elle a posté une image en train de prendre de la drogue. Elle a dit, c'est pas ce que vous pensez, j'ai déjà arrêté ces choses, mais... Je me suis retrouvé dans beaucoup de douleurs, j'ai mal, je souffre, que ces démons qui me poursuivent partent au nom de Jésus. Elle a déclaré ça. Mais j'ai réalisé que c'était par le manque de paix. Les situations qui t'ôtent la paix. Et tu veux la couvrir par toutes sortes de choses. Mon serviteur prospérera. Bien aimé, le shalom, qui est l'ingrédient principal de la prospérité, va amener la sagesse. Parce qu'on vous montre que Salomon était l'homme le plus sage. Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Et la Bible nous dit aussi que ce Jésus, ce Messie, l'esprit de sagesse reposera sur lui. Cette sagesse, c'est savoir quoi faire au bon moment. Amen. Cette sagesse, c'est ça qui amène les résultats. La sagesse, c'est l'ingrédient principal pour résoudre les problèmes. Et je vais vous dire, bien aimé, la prospérité vient pour vient-ce être conséquence des problèmes que nous sommes en train de résoudre. Les gens suivent Jésus parce que Jésus a résolu les deux plus grands problèmes de l'humanité, le péché et la mort. C'est pour ça que depuis que ça existe, depuis qu'il y a des gens qui attaquent Jésus, ça reste toujours Jésus. La Bible continue toujours à l'imprimer, le livre le plus imprimé au monde. Donc, bien aimé, les problèmes que tu résous vont déterminer ta prospérité. Aujourd'hui, cesse de fuir les problèmes. Tous les Goliaths ne sont pas à tuer. Tous les Goliaths ne sont pas à fuir. David n'a été connu qu'à cause des Goliaths. Joseph n'a été connu qu'à cause de la famine, à cause des rêves que Pharaon a eu, les problèmes que quelqu'un a eu, on l'a rendu prospère. Amen. Lisez tout, il n'y a pas tout dans la Bible. Quels sont les problèmes que tu as besoin à résoudre? Est-ce que tu as besoin de cette sagesse pour les résoudre? Amen. Cette sagesse et la compréhension, l'intelligence. Ainsi, quand je, la Bible nous dit « Mon serviteur prospérera », ça veut dire que ça prend le service pour prospérer. Amen. Il était serviteur. C'est-à-dire que Dieu ne voit pas prospérité sans service. Aujourd'hui, beaucoup de gens manquent la prospérité parce qu'on est plus des consommateurs que des serviteurs. Quels sont les services que tu offres? Aujourd'hui, les entreprises prospèrent. Pourquoi? Parce qu'ils offrent un service. Tu vas aller chez McDo parce qu'ils te font manger rapidement. Au lieu de passer des heures de temps à faire ta bouffe, tu vas juste là, 5 minutes, tu as ta bouffe, tu manges, tu es tranquille, tu fais. Parce qu'ils offrent un service. Ils sont en train de résoudre un problème. Mais aujourd'hui, nous sommes juste des gens à consommer, consommer, consommer. Dieu t'a créé pour un service. Dieu t'a créé pour un service. Je vous dis une fois en passant, bien aimé, que l'argent suit toujours là où il y a le service. Aujourd'hui, ne cherchez pas l'argent. Cherchez à servir. Si tu comprends les besoins des gens et tu donnes le meilleur service qu'il faut, les gens vont amener l'argent. Je vous dis en passant que tous nous avons été appelés à être des business. Pas avoir forcément des business, mais être des business. Parce qu'un business offre un service. Il vient résoudre un problème. Dieu t'a créé parce qu'il avait déjà vu un problème qui allait exister sur la terre et il a mis des capacités en toi pour résoudre ce problème-là. Et c'est ça qui allait amener la prospérité ou justifier la prospérité dans ta vie. Quand on parle que quelqu'un est pauvre, c'est juste quoi? La pauvreté, c'est juste l'impression ou l'image que les gens ont de quelqu'un, du manque de valeur de quelqu'un. Est-ce que les gens ne voient pas la valeur ou l'importance ou les services que quelqu'un peut rendre? Amen. Est-ce qu'on se comprend? On va encore avancer, bien-aimés. Le service au lieu de la consommation. Parce que le service va amener la production. Et la production va amener la prospérité. C'est ça qui va amener une valeur. Mais pour servir, bien aimé, il faut qu'on puisse réaliser que nous avons reçu un don. Mon serviteur prospérera. Il savait le don qu'il avait reçu, les capacités qu'il avait reçues pour répondre à ce besoin. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à faire l'inventaire des dons qu'il y a au-dedans de toi. Chaque personne a reçu un don. Alors c'est ignoble de dire à Dieu, « Seigneur, je n'ai rien, c'est un mensonge. » Dieu a déposé quelque chose en toi. Il y a un don unique en toi, une capacité unique en toi, bien-aimé. Mais ce don n'est pas juste pour toi. Je n'ai jamais vu un mangier manger ses propres mangues. Amen. Mais les gens viennent dans le manguier faire le manguier quand il y a des fruits, quand il n'y a pas de fruits, est-ce que les gens suivent le manguier? On ne me suit pas. Mais porte des fruits, on va te suivre. Pourtant, le manguier a la capacité de produire des mangues. Mais quand on ne produit pas, on passe à côté. Toi aussi, on continue à te passer, on continuera à te passer. Juste à ce que tu puisses réaliser, mais non, j'ai un don, il y a des fruits que je dois produire, il y a des résultats que je dois produire. C'est-à-dire que tu ne comprends pas seulement qu'il y a un don en toi, mais tu dois aussi comprendre ton audience. Vers qui je dois apporter mes services? Quelle est mon audience? Où sont les personnes qui auront besoin de bénéficier de ce que moi j'ai comme don? Tant aussi longtemps que tu n'as pas compris ton don, ni ton audience, ce sera difficile de servir adéquatement pour prospérer. Parce que c'est mon serviteur qui prospérera. Quelle est ton audience? C'est pour ça que tu ne peux pas aller là où tu es toléré, mais là où tu es célèbre. Là où les gens te célèbrent, certainement que les gens ont réalisé que tu as quelque chose qui leur est bénéfique. C'est pour ça qu'il n'y a pas lieu d'être orgueilleux. Mais quand les gens te suivent là, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Hein. C'est parce qu'ils profitent de quelque chose. Concentre-toi bien. Si j'avais rien, les gens ne me suivraient pas. Si je ne savais pas prêcher, qui allait me suivre? Non, il faut que tu se le dises. Non, cette sœur me suit parce que je peux prier pour elle, je peux dire quelque chose sur elle, je peux prophétiser. S'il n'y a rien là, elle va me suivre. Non. Elle dit, il a même un gros nez là. On va commencer à voir tout ce qui est croche. Bien aimé, quand tu commences, je vous dis, j'ai un gros nez, je l'assume, mais un moment, quand tu offres tes services, on ne voit même plus ces choses. Bien aimé, servir t'embellit. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh la vache, il est décédé. Il n'y a pas lieu, oh je ne suis pas belle, hein, tu as une petite estime de toi. Non, réalise le don que tu as, yes. Découvre ton audience, mets tes services à disposition. Hey, qui va encore voir que tu n'es pas belle?
C'est vrai.
Oh, qui va encore voir la grosse tête que tu as? Personne ne va voir ça. Les gens mangent des mangues, ils auront des problèmes à regarder que les racines sont toutes croches. S'en foutent. Nous, on mange les mangues, c'est bon, on va encore revenir demain. Jusqu'à même t'épuiser. Un moment, tu dis, bon, écoutez, on arrête là. Amen. Très important. Pour servir, tu as besoin de réaliser c'est quoi ton don, c'est quoi ton audience, et l'autre chose, c'est quoi tes compétences. C'est-à-dire ton expertise. Comment tu... C'est-à-dire, c'est pas tout d'avoir un don, mais comment tu véhicules ce don-là? Amen. Moi, je sais faire à manger, mais j'ai une façon comme je le fais là, que non, vous allez seulement aimer. Ton don, ton audience, ta compétence. Tout le monde en a. C'est à toi de le découvrir. Et une fois que tu le découvres, c'est... Amen. Mais ne va pas servir n'importe quoi. Ton audience, comment tu reconnais ton audience? Ton audience, c'est une audience quand tu es proche. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui t'attriste quand tu le vois. Amen. Et ce qui t'attriste, c'est les besoins qu'ils ont ou les problèmes qu'ils ont. Tu ne sais pas ton passé. Ah. Amen. Ou quelqu'un qui peut dire, bon... C'est quand les jours qu'on pourra manger des baleines plantains dans une boîte de conserve. Il y a peut-être quelqu'un qui a ses besoins là. Et toi, ça te dérange. On mange juste les baleines plantains comme ça. Amen. C'est ça que comme ça que tu découvres ton audience. C'est comme ça que tu découvres. Il y a un besoin qui te dérange. Il y a un problème qui te dérange. Les problèmes des gens ne font que te déranger. Il y a quelque chose que tu dois creuser. Amen. Tu reconnais ton audience. On avance. Mon serviteur. Pourquoi la Bible dit mon serviteur? Vous voyez le pronom mon, possessif. C'est-à-dire que tu ne peux pas être serviteur. Tu ne peux pas offrir des services si tu ne reconnais pas ta source. Il pouvait prospérer que parce qu'il était serviteur de quelqu'un. Il venait d'une source. Mais il ne suffit pas d'avoir une source, c'est-à-dire Dieu est ma source, de laquelle je parle. Parce que ta source va déterminer tes ressources. Parce qu'à un moment, quand les gens commencent à manger tes fruits, hein, à un moment, tu es à sec là. Tu as besoin de rentrer à la source pour te réapprovisionner. C'est pour ça, mon serviteur prospère. C'est-à-dire, ce qui va déterminer la continuité de la prospérité, c'est la connexion aux sources du serviteur. C'est pour ça que tu ne peux pas être serviteur de toi-même. Je me lève, je suis serviteur. Non. Quelle est ta source? Où est-ce que tu puises toutes tes ressources? Amen. Mais il ne suffit pas non plus d'avoir une source, mais il faut avoir une embouchure. L'embouchure, c'est généralement là où l'eau, les fleuves se jettent. Amen. Ils vont se jeter dans des eaux beaucoup plus vastes. Le fleuve aura leur embouchure, ils vont se jeter dans une mer. Une mer aura son embouchure, elle va se jeter dans un océan. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de plus grand vers lesquels tu vas servir. Amen. Ton embouchure, c'est-à-dire ton audience. Tu viens de Dieu vers les hommes. Amen. Vers les gens qui sont dans ce besoin-là. Alors tu dois comprendre c'est quoi ton embouchure. Et tu dois aussi comprendre c'est quoi ta source. Amen. De Dieu vers les autres. J'aimais ce qu'un homme de Dieu, le pasteur Atom, s'est dit, si vous voyez quelqu'un marcher dans le désert sans se fatiguer, ça veut dire que cette personne possède en elle-même la source de sa vie. Parce que dans un désert, hein, on s'assèche. Mais si quelqu'un continue à marcher sans se lasser, ça veut dire que sa source est déjà en dedans de lui. Amen. Il a un Dieu dans lequel il est en train de puiser ses énergies, ses forces, ses ressources, ses visions, ses capacités, ses dons, son expertise. Où il comprend mieux son audience. Et il continue à avancer. En 2015, tu n'as pas le droit de ne pas avancer. Dieu te donne le mandat de prospérer. Le mandat de prospérer. Amen. Et l'autre chose, bien aimé, quand il dit mon serviteur, un serviteur, c'est quelqu'un qui se met dans un verre. Un serviteur n'est pas habillé clean comme ça, là. Un serviteur, il porte un tablier, il retrousse ses manches. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler. C'est quelqu'un qui est prêt à creuser. C'est quelqu'un qui est prêt à se salir les mains. Tu manges dans le restaurant, mais va voir ce qui se passe dans la cuisine. Tu vois un cuisinier qui est plein de sauce et tout. Le chef est là. Il n'est pas comme tout clean, là. Mais toi, là, tu veux prospérer sans te salir même avec une petite tache de sauce. Je vous donne cette parabole que Jésus-Christ a dit. Je vous donnerai à quoi est semblable quelqu'un qui entend mes paroles et les met en pratique. Dans Luc 6, 46. Il dit, quelqu'un qui a bâtit sa maison sur le roc. Il se met à creuser en profondeur jusqu'à trouver des fondements et il bâtit sa maison. La tempête va venir, les secousses vont venir, la pluie va venir, mais cette maison va rester. C'est ainsi que ressemble quelqu'un qui entend mes paroles et les met en pratique. Mais quelqu'un qui les entend et les met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui a juste bâti sa maison sur le sable. Quand on lit ces deux passages, tu vois, la tempête est venue, la pluie est venue et a renversé cette maison-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prospérité qui peuvent tenir. Parce que la prospérité, c'est aussi quelque chose qui doit demeurer. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu veut le profit, Dieu veut que les choses avancent, Dieu veut qu'il y ait des retombées. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Les deux maisons ont été bâties sur le sable, même si on vous dit que l'autre est bâtie sur le roc. Mais la différence, c'est que l'une, elle n'a pas juste, elle s'est pas juste arrêtée dans le sable, elle a creusé. Ils ont tous eu le même terrain, mais l'autre a pris la peine de creuser en profondeur jusqu'à trouver le roc, jusqu'à trouver les fondements. C'est-à-dire qu'il s'est mis à travailler. Un serviteur, c'est celui qui travaille, c'est celui qui creuse, jusqu'à trouver quelque chose de solide, jusqu'à trouver quelque chose de stable dans lequel il va fonder, bâtir son entreprise, bâtir sa maison, bâtir ses relations, bâtir tout ce qu'il doit faire, bâtir son service. Ce sont les gens qui bâtissent souterrain. Amen. Creuser là, c'est quand on ne voit même pas ce que tu fais. Le travail qui est fait en coulisses, c'est ce qui détermine la qualité du service à l'extérieur. Mais toi aujourd'hui, tu veux juste travailler en surface. Je veux juste bâtir ma maison sur le sable et puis avancer. Tu veux juste ce qui est visible, qu'on te voie. Le mariage a été commencé aujourd'hui, qu'on voit vraiment. Tape-toi d'abord 10 ans dans l'obscurité. Après, tu vas danser et dire tout, je suis la plus belle. Mais tu t'as commencé seulement aujourd'hui, tu fais tous les honneurs. C'est d'abord l'enfant. Amen. Aujourd'hui, les hommes qui se plaignent, oh, ma femme n'est pas. Mais la femme que j'ai ici, bien aimée, elle sera à l'image de ma vision que si je me suis mis à creuser. Quand je la prends comme femme, c'est un produit durable, c'est pas un produit fini. Donc je dois me taire sur toutes les plaintes et les murmures et dire, je n'ai qu'à travailler. Je travaille pour qu'elle devienne cette femme que toi tu veux. La vie va te donner quelque chose de fini. Mais non. Adam, c'était qui? C'était un cultivateur. On lui a donné une tête cultive. Ça veut dire quoi? Travail. Elle était un produit brut. C'est pas un produit fini. Où sont les creuseurs aujourd'hui? Où sont les serviteurs? Où sont ceux qui vont travailler pour cette Dieu? Parce que bien aimé, tout travail mérite un salaire. Il n'y a pas de prospérité sans travail, sans labeur. Quand vous arrêtez toutes ces utopies, tu dois creuser, creuser, creuser. Oui, j'ai un don, mais je dois le raffiner, ce don. En passant, toi qui vas faire des études dans un domaine qui ne correspond pas à ton don, tu perds ton temps. Les études n'ont jamais donné de don à Jean. Mais les études sont là pour raffiner le don que tu as déjà. Ainsi, si tu vas faire des études qui ne correspondent pas au don que tu as déjà, tu perds le temps. Creuser, creuser, creuser. Le travail, la discipline. C'est ça qui. Tu es en train, bien aimé, d'investir dans le long terme. La prospérité, c'est une affaire de long terme. La vie, c'est une affaire de marathon. Ce n'est pas un sprint. Moi, je suis passionné par ça. Et je cours pas vite. Mais je cours jusqu'au bout.
Yes.
Au final, tu me verras prendre la coupe là. Tu peux dépasser. Au final, on se reverra. D'ailleurs, on se verra pas, toi, tu seras déjà déclassé. Tu veux courir vite, tout le monde te voit. Moi là, je fais des pas intelligents. Parce que même le travail, c'est pas celui qui travaille dur comme un esclave qui réussit. Mais c'est celui qui travaille intelligemment. D'où le besoin de la sagesse pour que mon serviteur prospère. Car l'esprit de sagesse et d'intelligence reposera sur lui. Avant même que l'esprit de puissance repose sur lui. La sagesse est plus grande que la puissance. Travaille intelligent. Amen. Tu as travaillé trop dur, mais pas intelligemment. Tu n'as pas mis tes efforts là, il fallait qu'ils soient. Tu ne les as pas maximisés, tu ne les as pas canalisés. Amen. Bien-aimé, apprends à recevoir de la vie ce qu'elle t'envoie. Mais apprends aussi à la transformer pour ce que tu veux devenir. Parce qu'en réalité, bien-aimé, le travail, c'est pas ce que vous pensez que c'est. Les gens pensent que travailler, c'est avoir un job. Mais on peut te mettre dehors. Quand tu as juste un job. Mais quand tu es ton propre job, on ne te met pas dehors. Vous me mettez dehors. Et bien-aimé, est-ce que le vol, le fait de voler, peut être dissocié de l'oiseau? Vous mettez l'oiseau dehors, vous ne prenez pas son vol. Vous ne prenez pas sa capacité de voler. Sa capacité de voler est en elle. Toi qui es en train de bâtir dans quelque chose qui n'est pas attaché à toi, tu perds ton temps. C'est ainsi que pour Dieu, travailler, c'est devenir soi-même. S'améliorer, devenir soi-même, se cultiver. C'est-à-dire, bien aimé, j'investis dans ce qui est dedans de moi. Vous pouvez me mettre dehors, mais je pars avec toutes mes capacités et mes dons. Vous restez là, oui. Vous restez juste avec les heures et les paychecks que vous me donnez, mais moi demain, je deviens millionnaire, milliardaire. Bill Gates travaillait chez IBM. Quand il leur a proposé le projet d'avoir des micro-ordinateurs qu'on a aujourd'hui, parce que les ordinateurs c'était des grosses machines comme ça qui pouvaient prendre toute une salle, le directeur a dit c'est de la foutaise, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que le gars a fait? Baba, il est allé dans son garage. Aujourd'hui, c'est quoi? L'homme le plus riche du monde. Et IBM, guess what? Ils utilisent ces produits.
Bientôt, vont faire faillite.
Bientôt, ils vont même fermer. Vous voyez un peu ces choses. Donc, qu'est-ce que tu as de particulier? C'est quoi ton don? C'est dans ça que tu vas creuser. Amen. Travailler, c'est devenir soi-même. Devenir soi-même. S'améliorer. Amen. Alors, mon serviteur prospérera. Mais la prospérité, c'est aussi le fait de survivre, tenir bon. Je dis que la prospérité d'une femme, c'est pas quand elle donne des enfants, mais c'est quand elle porte pendant 9 mois ses enfants. Je ne dirais pas qu'une femme est féconde parce qu'elle a 2-3 enfants, mais je dirais qu'elle est féconde quand elle sait endurer 9 mois de grossesse. La prospérité, c'est quand tu sais endurer les choses difficiles. Bien aimé, ça ne paraît pas que tu prospères, mais parce que je suis encore là. 10 ans de mariage, je suis encore là. Amen. J'ai peut-être pas vu tout ce qu'il y a de beau, mais je suis encore
là.
Tu prospères. Amen. Mes enfants compliqués, je suis encore leur parent, je n'ai pas abandonné ces enfants. Mais cause des maux de tête, je suis encore là. Où sont les jusqu'au-boutistes? Où sont les gens qui ne vont pas débarquer au moins des pépins? La prospérité, c'est une affaire où les gens ont dû, où les gens tiennent bon, restent stables. Est-ce que vous ne savez pas dans Isaïe 45, 7, la Bible dit que l'Éternel forme la lumière et il crée les ténèbres. La Bible nous dit aussi que l'Éternel donne la prospérité et il crée l'adversité. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la disette comme dans l'abondance, je suis toujours Paul, serviteur de l'Éternel. Où sont ceux qui peuvent continuer à servir? Dans les montagnes comme dans la vallée. Dans la gloire comme dans l'obscurité. C'est cela qui prospère. Arrêtons de nous limiter à ce qui est visible. Mais on veut ceux qui ont l'audace, ceux qui ont le courage, ceux qui ont le guts, ceux qui ont cette ténacité-là. Le prospère, c'est celui-là. Amen. Ceux qui sont stables. Mais j'aime ce passage, car ce passage ne s'arrête pas là. On est en train de mettre les fondements, la prospérité. Mais ce passage ne s'arrête pas là. Il dit que mon serviteur prospérera, mais il ne s'arrête pas là. Il y a une autre étape. Il montera. Il montera. Il montera. Monter, bien aimé, pour monter, il faut d'abord descendre. On ne peut pas faire monter quelque chose qui est déjà en haut, entre nous. Et vous savez, parfois, Dieu peut te faire monter en te faisant descendre. En passant, la première fois où le mot prospérité a été mentionné dans la Bible, c'est dans l'histoire de Joseph. Genèse 39, verset 2. La Bible déclare que l'Éternel, il était dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna et il demeura dans la maison de son maître, Potiphar. Comment Dieu peut dire que quelqu'un est en train de prospérer pendant qu'il est en train de descendre? Il est dans la maison de son maître comme un esclave, comme un serviteur. Je me suis toujours demandé pourquoi Joseph n'était pas parti de là. Pourquoi il n'a même pas cherché à s'évader? Mon serviteur. Parce qu'il dit, je suis en train de servir. Et le service que je suis en train d'offrir ici, parce que j'ai senti qu'il y a un besoin, il y a une audience ici, ça va m'amener à une autre étape. Je descends pour monter. Je descends pour monter. Je descends pour monter. Bien aimé, quand tu as vu... Seigneur, comment je vais expliquer cela? Descendre pour monter, c'est l'humilité. Amen. Dieu élève ceux qui sont humbles, ceux qui s'abaissent. Il ne peut pas avoir de prospérité s'il n'y a pas d'humilité. Ou tu comprends que les gens t'insultent, ce n'est pas pour toi, mais c'est à cause de ce que tu offres. Donc il n'y a pas lieu de s'en orgueillir. Et même ce que tu offres, tu l'as reçu de quelqu'un. Mon serviteur. Tu es une source, tu es le serviteur de quelqu'un. Mais il n'y a pas lieu de m'en orgueillir. La beauté là que j'ai, c'est Dieu. Dieu peut frapper quelque chose, une maladie bizarre, là, on ne te reconnaît plus. Hein. Ou tu peux avoir une maladie, tu maigris comme quoi toute ma beauté part. Amen. Il y a des gens que la beauté vient quand ils grossissent. Quand ils amincissent, il n'y a plus de beauté. Oui, d'autres, la beauté vient quand ils maigrissent. Quand ils grossissent, Dieu va te donner sa rage. Que toi, tu es belle quand tu es maigre. Je vais te faire grossir, là, tu ne vas pas comprendre. Tu manges juste des petits céréales, mais tu gonfles comme un ballon. Et on voit mieux. Pas d'humilité. Amen. Dieu est en train de regarder toutes ces choses. Mon serviteur montera. Donc tu dois descendre pour monter. Mais l'autre chose, pour monter aussi, il faut voir haut et loin pour monter. La vision. Bien aimé, quand quelqu'un sait où il va que, il sait que sa destination finale c'est la montée. Cette personne n'a pas peur de descendre. Parce que je suis en train de descendre, mais j'ai mes yeux. Je sais que cette descente n'est que ma montagne. Je remonterai. En passant, vous savez qu'il y avait toujours un dicton. Quand vous lisez dans la Bible, chaque fois qu'on allait à Jérusalem, on montait. je monte à Jérusalem, peu importe. Tu pouvais être à Jéricho. Jéricho est plus élevé en altitude que Jérusalem. Normalement, tu dirais, je descends à Jérusalem. Non, non, non. Parce que Jérusalem, c'est là où il y a le temple de Dieu. Là où il y a la gloire, là où il y a la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Je ne peux que monter, où que je sois, je ne peux que monter. Même si ça va me prendre et de descendre, mais si ma destination est à Jérusalem, je monterai certainement. Où est-ce que tu fixes tes regards? Est-ce que tes yeux sont sur la vision de l'Éternel? Est-ce que tes yeux sont sur cette vision que l'Éternel a dit, mon serviteur prospérera. Mon serviteur ne finira pas comme ça. Il prospérera pas seulement, mais il montera. Où sont tes yeux aujourd'hui? Tes yeux sont juste dans ton moment présent, mais qui t'a dit que ton présent sera éternel? Ne sais-tu pas que le présent d'aujourd'hui sera le passé de demain? Pourquoi je vais m'asseoir dans ce présent comme si j'allais finir dans ce présent? Tu n'as qu'à mourir? Prends des comprimés, meurs. Parce que pour toi, tu veux voir que c'est qu'il y a maintenant. Ne sais-tu pas que la vie de quelqu'un est un mystère? Je veux oser rêver grand. Je disais à une soeur, hier, je l'ai appelée, je dis la soeur. Est-ce que tu sais que ne pas s'attendre à un miracle est la meilleure façon de manquer ce miracle? Je dis, tu ne t'attends plus à rien. Ah oui, c'est vrai. Je dis, c'est parce que pourquoi? Parce que tu as tellement attendu à ces choses, tu as tellement espéré ces choses qui ne sont pas venues. Et pour te protéger, tu as réduit tes attentes. Tu te dis, non, moi si je m'attends à peu, je n'aurai pas mal. C'est une erreur, bien-aimé, c'est une erreur. À quoi servirait-il de garder ta vie si tu la perds? Celui qui garde leur vie la perdront. Accepte de perdre, même si ça va faire mal. Mais laisse-moi te dire, si tes attentes ne sont pas élevées, il te sera difficile de reconnaître le miracle quand il vient. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, Jérusalem, malheur à toi parce que tu n'as pas réalisé le temps de ta visitation. Mais quelqu'un qui s'attend à chaque jour, Jésus revient. Il est en attente de quelque chose de grand. Quand cette chose vient, quand le Seigneur frappe à sa porte, quand les opportunités frappent à sa porte, les opportunités de monter viennent à sa porte, il les reconnaît, il les embrasse. Mais quelqu'un qui est tellement réduit dans ses attentes, il va être comme quelqu'un qui va venir. Et c'est le moment, viens. C'est ton tour. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu es tellement habitué dans tes petites choses. Tu t'as tellement réduit tes attentes que tu ne vois plus rien. La soeur me dit, c'est vrai, j'ai vraiment moi tous les deux yeux fermés. Je dis, maintenant tu vas faire un exercice. Commence à ouvrir un œil à la fois, petit à petit, un petit sourcil. Je dis, oui, en tout cas, je te remercie. Je vais le faire. Parce que je dis, la vie de quelqu'un change toujours en un jour. Elle m'a dit, tu sais quoi, ça peut même être demain mon jour. J'ai dit, ah, tu as compris. J'étais content et j'ai raccroché, j'ai dit, ah, je vois que le message est passé. Il y a quelqu'un qui a été délivré. Amen. Mon serviteur montera. Donc, mais il ne s'arrête pas juste à monter, il dit, il s'élèvera. En passant, bien aimé, on ne s'élève jamais soi-même. Mais il y a une chose qu'on peut faire, se rendre léger pour être élevé. C'est difficile d'élever quelque chose qui est lourd. Quand quelque chose est lourd, qu'est-ce que je fais? Je laisse. Tu es lourd à porter, je vais te soulever, non? Ou si j'ai la patience, je vais appeler de l'aide. Mais entre nous, soit dit, les gens n'ont pas beaucoup de patience ces temps-ci. Tu es lourd à te soulever, on te laisse, là tu vas attendre. Le jour où tu vas perdre un peu de poids, le jour où tu seras un peu plus allégé, on te livrera. Amen. Mon serviteur ne montera pas seulement, il ne prospérera pas seulement, il ne montera pas seulement, mais il s'élèvera. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu qui juge. Quand il s'agit de l'élévation, c'est Dieu qui juge. Dieu va voir, est-ce que tu es assez léger pour être élevé? Est-ce que tu es assez léger pour être soulevé? Pour que je t'amène dans cette étape supérieure. Oui, tu es monté, mais il faut qu'on t'élève. Amen. Mais comment Dieu juge? Il juge par ta fidélité dans des petites choses pour décider est-ce qu'on peut t'amener à l'étape supérieure. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu ne te bénit pas par rapport aux tes demandes, mais par rapport à ta capacité de gérer ce que tu demandes. Donc, bien-aimé, la gestion est plus importante que la prière. Dieu va regarder à cette étape les choses que tu as, comment tu les gères. Tu veux une grande voiture, une grande Jeep, mais la petite voiture que tu as, elle est toujours sale, elle est toujours maganée, et tu la traites jamais bien. Je ne vois pas pourquoi je vais te donner quelque chose. Je veux un autre enfant, mais l'enfant que tu as, tu traites d'abord comment? Oh, je veux un meilleur emploi. Le boulot que tu es, tu es toujours celui qui prend des longues pauses, tu es toujours celui qui vient en retard, tu es celui toujours qui te chicane avec le boss. Dieu va dire, mais non. Si tu n'es pas capable de gérer cette chose que tu as, comment vas-tu gérer plus? Amen. Celui qui était fidèle avec deux, on lui donne deux fois plus. Celui qui était fidèle avec cinq, on lui donne cinq fois plus. On va lui donner dix. Amen. C'est important. Dieu est un juge. Il juge comme ça. Il va juger ta fidélité dans cette étape. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu as? Mais bien aimé, la fidélité dans la gestion, c'est la gestion de tes tâches, mais aussi dans la gestion de tes relations difficiles. Parce que pour l'élévation, tu vas amener des relations difficiles et compliquées. Vous voyez les gens bizarres, là? Hein? C'est généralement des éléments déterminants pour l'élévation. Dieu va t'amener des gens compliqués, bizarres. Il va voir comment tu vas les gérer. Parce que si tu n'es pas capable de gérer ces relations difficiles, il te sera difficile de gérer tous ceux qui seront en dessous de toi. Parce que quand Dieu t'élève, il y aura forcément des gens qui vont regarder vers toi. Amen. Et ça, Dieu va t'amener le test ultime. Les gens qui vont nécessiter une plus grande grâce de ta part. Parfois, tu sais, le meilleur cadeau de donner à des gens difficiles, c'est d'être patient. D'être patient. La patience envers quelqu'un est l'un des plus grands cadeaux. Vous savez, il y a des gens, si seulement quelqu'un avait été patient en eux, on aurait pu voir le trésor qui est caché dedans eux. Il y a des enfants difficiles comme ça, mais ça prend juste d'être patient envers eux pour voir les champions qui est caché dedans eux. Vous savez, jamais vu, tu es en relation avec quelqu'un, tu emburais tellement des choses et tu jettes la personne. Demain, tu reprends la personne en relation avec quelqu'un et c'est la personne la plus merveilleuse qui soit. Vous savez quoi? Dieu t'a utilisé pour travailler dans cette personne afin qu'elle soit meilleure pour quelqu'un d'autre. Elle aurait aussi pu être meilleure pour toi si tu avais. Merci. Amen. C'est ça. Tu dis, mais moi, c'était un monstre, cette personne. Mais comment vous me dites que c'était un ange là-bas? Amen. C'est un Dieu de processus. C'est un Dieu de processus. Sache endurer les gens que Dieu amène sur ton chemin. Ça va déterminer ton élévation. Amen. Dieu va voir est-ce qu'il est léger de t'élever. Et bien aimé, les gens vont pouvoir dire parfois, on dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui fait croître. Dieu est celui qui ajoute ce que nous pouvons gérer. Amen. Ce que tu peux gérer, Dieu va ajouter. Ce que tu ne peux pas gérer, Dieu va te garder là, au pire, il va même retrancher. La meilleure façon de régler l'ingratitude, c'est le manque. Quelqu'un qui ne sait même pas dire merci pour le peu que tu qu'il a. Vous savez ce que Dieu fait? Il enlève même le peu. Quand tu n'as plus rien là, tu as moins là. Ah, tu vas pouvoir apprécier les petites choses. Mais n'attends pas d'arriver là. C'est quoi, je n'ai pas envie de rentrer là-bas si ce n'est pas ma destinée. Pourquoi descendre quand Dieu ne veut pas que tu descendes? Ou Dieu dit, bon, je suis contraint de te faire descendre parce que tu es trop lourd à élever. On va un peu te trimer, on va te donner un fitness, un régime là, où tu vas perdre tous ces poids là excédentaires, afin qu'on puisse t'élever. Dieu va te faire doubler des classes si tu ne suis pas cette classe. Dieu n'a pas de poids. Arrêtez, Dieu ne fait pas doubler des classes aux gens. À même que tu sois tellement excellent dans ta façon de gérer, celui-là, on fait sauter des étapes. Amen.
Mais la dernière étape ici, on nous dit que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Mais la Bible nous dit qu'il s'élèvera bien haut, bien haut.
Bien aimé, il y a une sécurité à s'élever bien haut. Vous savez qu'il y a des serpents qui ne peuvent pas atteindre certaines montagnes, certains sommets. Il y a des ennemis, bien aimé, parce qu'il y a toujours un ennemi qui poursuit ta vie. Il y a toujours un passé qui te poursuit. Il y a toujours des choses que tu as faites dans ton passé qui veulent te poursuivre. Mais bien aimé, je disais à une sœur qui était poursuivie par beaucoup de choses. Je dis, tu sais, ta délivrance, c'est quoi? C'est de continuer à courir. Le jour où tu t'arrêtes, tu n'auras plus aucune longueur d'avance. On va te rattraper. Mais plus tu cours vers la vision de l'Éternel, plus ça va te garantir la percée. Ça va te garantir la protection, la sécurité, même sur tes ennemis. Parce qu'il y aura un niveau où dans lequel tu vas courir, où Dieu va décider de juger ceux qui te poursuivent. Où ceux qui te poursuivent seront poursuivis. Où ton passé qui est en train de t'affecter, tu diras, moi j'ai fait ça, ça, ça. J'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, cela. Ça me hante toujours. Un moment, Dieu, puisse tu continuer à le poursuivre. Il va poursuivre ton passé. Et quand Dieu poursuit quelqu'un, eh, on ne peut pas fuir Dieu. Amen. Rab la prostituée, elle est listée dans les héros de la foi. Prostituée sans passé. Mais là, elle est entrée dans quelque chose de plus grand qu'elle. Plus grand que son passé. Et ça a sécurisé sa vie. Amen. Et Dieu veut le faire. Afin qu'il pourra te dire, les pharaons que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Amen. Ce que tu te poursuis aujourd'hui, tu ne les verras plus parce que tu vas t'élever bien haut. S'élever bien haut, c'est aussi une élévation où tu as une renommée, où ton nom est en train de parler, où ton nom est en train de relever les gens et les situations. C'est-à-dire que dans Philippiens 2, la Bible nous dit que l'Éternel lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La volonté de Dieu, c'est de rendre ton nom grand. C'est ce qu'il a dit à Abraham, qui ton père t'a bâti ton pays, mais va vers le pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand, pas ton titre grand, pas tes titres grands, mais ton nom grand. Aujourd'hui, les gens s'accrochent à des titres, ils s'accrochent à des statuts, au lieu de chercher à avoir un nom grand. Parce qu'un titre, on peut te l'enlever. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens me font que changer les titres. Il y a 2 ans, tu avais ce titre, aujourd'hui, tu as ce titre, les gens changent de titre. Aujourd'hui, j'étais prophète, demain, je deviens apôtre, demain, je deviens six, archi, demain, je deviens pape, je ne sais plus, on ne sait plus, c'est quoi que je... Mais Dieu n'a jamais dit qu'il bénirait ton titre.
Amen.
Dieu n'a jamais dit qu'il rendrait ton titre grand. Fait qu'il veut, je vais juste avoir, si j'ai le titre de PDG, si j'ai le titre de ceci, la grande patriarche c'est moi, le grand prêtre-mère c'est moi, ou je ne sais pas quoi. Toi qui poursuis le titre. Dieu a dit que je rendrai ton nom grand. Il a rendu le nom du serviteur de l'Éternel, Jésus qui est venu, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui a pris la forme humaine. Mais à un moment, parce qu'il avait enduré toutes ses étapes, il est monté, il a prospéré et il s'est élevé. Dieu a vu qu'il était digne, qu'il pouvait gérer ce qui lui avait été confié. À un moment, Dieu a dit, je lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, plusieurs situations puissent se relever. Dieu veut te donner un grand nom. Afin que, juste à la mention de ton nom, que cela puisse donner espérance à plusieurs. Que ton audience me dise, quand son nom est cité, quand son nom est manifesté, nous savons qu'il y a pu avoir un relèvement. Dieu t'élève très haut pour relever plusieurs. L'élévation, c'est pour relever. Élevé pour relever. Je suis élevé très haut pour relever plusieurs. Je ne suis pas élevé plus haut pour avoir des galons et des titres, pour me faire voir, mais pour relever ceux qui sont dans la poussière. Parce que seuls ceux qui sont élevés très haut peuvent relever ceux qui sont plus bas. Ceux qui sont plus bas ont besoin de quelqu'un qui est plus haut. Alors à un moment, Dieu dit, à qui je veux confier cet état d'élévation? Je veux amener plusieurs à une élévation pour sécuriser, pour relever plusieurs. Mais Dieu dit, je n'en trouve pas. Je trouve des gens qui sont juste centrés sur eux-mêmes. Je trouve des gens qui ne veulent pas creuser et travailler en eux-mêmes. Je trouve des gens qui veulent juste travailler en surface. Je trouve des gens qui veulent juste déclarer, proclamer la prospérité. Je trouve des gens qui veulent juste faire des choses, mais sans être ce qu'ils sont. À qui vais-je confier cet état? Qui est-ce que je pourrais élever très haut pour relever plusieurs? Dieu pleure, il cherche. Aujourd'hui, maintenant, les gens sont en train de regarder aux stars. Ils sont en train de pervertir notre jeunesse. Pervertir l'institution du mariage. Le divorce batte le plein parce que les gens à Hollywood se marient aujourd'hui, divorcent demain. Aujourd'hui, tous nos jeunes veulent de plus en plus se dénuder parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est les gays qui sont en train de les faire. Aujourd'hui, la mode, c'est juste être de plus en plus décolleté, de plus en plus dénudé. Et moi, je dis toujours, plus il y a nudité, plus il y a activité démoniaque. Plus il y a nudité, plus il y a une tête qui ne fonctionne pas. Quand je te vois trop dénudé, moi, je dis, il y a soit la tête ne fonctionne plus bien, ou il y a beaucoup de démons qui sont en train de travailler. C'est ces deux choses. Tu vas pas me dire, oh non, c'est tout juste les habits, je ne sais pas, j'ignore. Oui, tu ignores parce que les démons ont juste bien ta tête, elle est rendue à l'envers. C'est normal, l'ignorance n'est pas une excuse. Aujourd'hui, si tu veux même que ta tête fonctionne bien, couvre-toi de plus en plus. Tu vas voir.
Ça compte.
La tête va mieux fonctionner Tu vas découvrir tes dons, ton audience, tu vas produire des fruits, tu vas aller de l'avant. Bien-aimé, la chose la plus puissante que Dieu t'a donnée pour ta prospérité est entre tes deux oreilles. Qui est capable de voir ses oreilles sans un miroir? Généralement, ta bénédiction, ton élévation est cachée dans les choses que tu ne sais pas voir visiblement. Dieu a mis ça dans ton cerveau, dans ta capacité, dans ton intelligence, pour t'élever bien plus haut. Plus haut! Ne t'arrête pas là. Toi aussi, donc, peut-être que tu as eu peut-être un certain niveau, tu veux t'arrêter. C'est une erreur. Parce qu'il y a des pharaons qui poursuivent. Mais à un certain niveau, il n'y a plus rien qui peut te poursuivre. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Jésus ne pouvait plus être atteint à ce niveau-là. En la mention de son nom, tout genou pouvait fléchir. Et tout un homme pouvait confesser. Reconnaître que réellement celui-ci est le serviteur de l'Éternel. Réellement celui-ci est le roi de Yahweh. Réellement celui-ci est celui qui a été appelé par Dieu. Il est temps qu'on reconnaisse ce que Dieu a mis en toi. Amen. Dieu rendra ton nom grand. En conclusion, bien-aimé. Rentrons dans la Genèse, la Bible dit, il bénit l'homme en disant, soyez fécond. Ça veut dire, soyez prospère. Amen. Et il dit, multipliez-vous. Ce qui veut juste dire, montez. Amen. Et il dit, remplissez la terre et assujettissez-la. Ça veut dire, soyez élevés. Elle va encore dire, dominez là, ça veut dire soyez élevé très haut. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire. Mais Dieu veut te relever. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu peut être à la traîne, mais il est en train de te tendre le bras ce matin pour te relever et t'amener à une nouvelle dimension, à sa dimension. Parce que comme je vous ai dit au début, la prospérité du juste glorifie l'Éternel. Et ce que Dieu a fait est appelé à prospérer pour refléter l'image de son Créateur. Dieu veut ramener ta position à cette position. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être léger ce matin pour que Dieu puisse relever? Juste ceux qui peuvent s'alléger. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Qu'est-ce qui te rend si lourd? Je ne sais pas, peut-être tes attentes que tu as réduites à néant. Je ne sais pas, peut-être c'est un passé qui te lourdit. Je ne sais pas, c'est peut-être un orgueil. Je ne sais pas, c'est peut-être un manque de vision, un manque de réalisation des dons que Dieu a mis en toi. Juste pour dire entre parenthèses, ça me fait mal aujourd'hui de voir tant d'immigrants mais qui ne font pas grand-chose. Je disais l'autre fois à ma femme, nous avons immigré ici pour le pain. C'est une immigration économique. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de toute révélation, de toute vision, il y a une partie en toi qui ne sera pas satisfaite par le pain, par le paycheck, par tous les dons, les besoins que tu recherches, que j'ai des maris, que j'ai des enfants, que j'ai ceci. Aujourd'hui, dans l'église, même nos prédications sont conditionnées par cela. Mais tout ça, c'est du pain! Parce que tu vas avoir la femme, mais après tu voudras des enfants. Tu vas avoir des enfants, après tu voudras qu'ils grandissent et qu'ils partent. Tu voudras ceci, après tu voudras encore ceci. Tu ne seras jamais satisfait par le pain. Mais ce qui va te satisfaire, c'est cette révélation. C'est cette vision. C'est pourquoi tu as été appelé à résoudre ces entreprises que tu dois concevoir. Ce business que tu en aimes, que tu dois être. Jusqu'à quand on va venir ici? Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un ne pense pas qu'il peut être une solution, il shut down. C'est-à-dire tout son potentiel freeze. Vous savez, quand nous venons dans ce pays, qu'est-ce qu'on se dit? Tout a été fait, il n'y a rien qu'on doit faire. Et ça ne va pas réveiller tes capacités, tes dons. Ça ne va même pas te pousser à chercher ton audience. Tu vas juste être là, te contenter du pain. Il y a un ami que je suis allé voir à Ottawa, il est infirmier. Une fois, Dieu lui a donné la grâce de soigner Jean Chrétien qui passait à l'hôpital. Jean Chrétien lui demande, d'où, de quelle origine es-tu? Oh, je suis Congolais. Jean Chrétien lui dit, mais vous êtes où les Congolais? Je ne vous vois pas. Je ne vous entends pas. En d'autres termes, je ne vois pas votre contribution. Vous êtes venu ici juste pour consommer? Vous savez que ceux qui consomment, c'est ceux qui seront esclaves. Toujours à la traîne. Toujours des pinates. Le jour où on coupe le boulot là, c'est fini. Mais vous savez, les gens qui se nourrissent par leurs rêves, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent fonctionner 2 mois sans salaire. Pas parce qu'il a des réserves. Il accepte de manger. Il y a des gens qui ne mangent pas. Un moment, il est tellement plongé dans ses rêves que ça ne lui dit même plus rien de ne pas avoir mangé pendant 2 jours. Jésus-Christ dit, j'ai une nourriture que j'ai à manger. C'est faire la volonté de mon Père. Pas juste manger vos pains là. Le pain c'est bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. Ça vous demande ton pain. Mais le pain ne va pas satisfaire tout ton être. Parce qu'il y a une partie en toi qui ne peut être satisfaite par cette révélation de qui tu es. Par cette révélation de ton don, de ton audience, de ce que tu as appelé à résoudre ton problème. Ainsi je te dis pour conclure, dis à Dieu, révèle-moi le don que tu as caché en moi. Parce qu'on peut me renvoyer, mais personne ne me renverra avec mon don. On peut même me rejeter, mais mon don sera toujours avec moi. Vous savez, quelqu'un qui est prospère, comment je réalise le compte de la prospérité? C'est quelqu'un qui a tout perdu et qui peut se relever. Il y a des gens qui ont fait faillite et qui se sont révélés le jour après. Pourquoi? Parce que vous avez pris les biens, les hypothèques et toutes ces choses, mais vous n'avez pas pris ma matière grise. Qui peut enlever le cerveau que Dieu t'a donné? Qui peut ôter le don que Dieu a mis en toi? Et c'est la chose que tu choisis d'ignorer et de mépriser le plus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se réveiller. En 2015, en ce mois de février, il fait froid. Les gens parfois disent, qu'est-ce qu'on peut faire en hiver? J'attends seulement qu'il fasse beau pour faire quelque chose. Vraiment. L'hiver aussi, c'est un temps que Dieu amène. Il y a des choses, il y a des besoins qu'on peut résoudre en hiver. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre en hiver. Regardez tous les sports d'hiver qu'il y a. C'est des gens qui ont pensé, en hiver, on ne va pas juste rester dans les maisons. Allez, on crée tout ça. Ils font l'argent avec. Si vous, en tant qu'immigrant, vous étiez venu quand il n'y avait rien de créé au Canada, vous alliez fuir. Ah, il fait trop froid comme ça. Mais les autres sont venus, ils ont vu des montagnes. Parfois, quand je vais vers Ottawa, je vois cette route-là. Les montagnes qui sont là de part et d'autre. Je dis donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des montagnes partout ici. Mais ces gens se sont mis à tailler, à creuser. Il n'y avait pas de route, mais ils ont dit, nous, on doit passer de l'autre côté. On va faire une route sur la montagne. Hey! Mais toi, quand tu vois la montagne, tu dis, cherchant une autre route, on va aller vers la rivière. Là, on va te manger par les crocodiles. La facilité, c'est toujours ça. Mon serviteur prospérera. Il est temps qu'on retrousse nos manches. Il est temps qu'on embarque dans ce projet avec Dieu. Peu importe ce que tu as connu, ce que tu n'as pas connu. Ça a été difficile, certes, mais il y a quelque chose qui n'est pas mort en toi. Il y a même quelque chose qui ne mourra jamais en toi. C'est même ton don parlera quand bien même tu serais mort. Ta vie est morte, mais la veuve est en train encore de montrer tous les vêtements qu'elle avait faits, les besoins qu'elle avait répondus, les problèmes qu'elle avait résolus. Ils parleront pour toi. C'est ainsi que... Alléluia, je vais m'arrêter là, Seigneur. Il y a une chose que les Juifs font. Ils enseignent à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, aux enfants des enfants de leurs enfants. C'est pourquoi ils sont. Vous savez pourquoi on ne les oublie pas? Un Juif pourra toujours te dire, mon grand-père, mon arrière, pourquoi? À cause cause des œuvres qu'ils ont laissées. Le gars a résolu tellement de problèmes que je ne peux même pas l'oublier, même si je ne l'ai jamais connu. Vous voyez cette bâtisse-là, cette entreprise-là, c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a fait. Tu vas l'oublier comment c'est, ce arrière-arrière-grand-père. Et chaque fois que tu vois ça, ça va te pousser toi à lui dire, moi je dois faire plus. Parce que le succès est dans la succession. Moi j'ai dit, je veux prospérer, ne fût-ce que pour mon fils. Pour qu'il y ait une image. Voilà ce que là où papa s'est arrêté. C'est que je peux faire encore plus. Faisons-le pour les générations à venir. Parce que la génération à venir est déjà attaquée par l'ennemi. L'attaque n'est pas sur nous, mais sur les générations à venir. Et nous voulons être élevés plus haut afin que ces générations soient relevées. Sauvons une génération en servant le prospère. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia. Oh, j'aimerais juste que tu tiennes la main de quelqu'un. Personne ne reste seul ce matin. Aujourd'hui, on prie différent. Non, tu vas prier pour la personne à côté de toi. Tiens la main. Que Dieu réveille ce qu'il y a en lui. Que Dieu révèle les dons qu'il y a en lui. Oh, alléluia. Le serviteur, la servante qu'il y a en lui, en elle. Oh Rabashike, Ikeriba Sanda, Ikeriba Sanda Rabashiko, repris le Seigneur. Tu ne sais pas là où, par quoi cette personne est en train de passer, mais un shalom, une prospérité, un service qui sommeillait, qui se réveille. Il y a des rêves qui se réveillent maintenant au son de ma voix. Au son de ma voix, quelqu'un ne se contente plus du pain. Au son de ma voix, quelqu'un ne se contente plus du pain. Au son de ma voix, quelqu'un décide maintenant. Prie, ouvre ta bouche et prie pour la personne à côté de toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous libérons ce shalom. Nous libérons cette bénédiction qu'elle traverse, qu'elle traverse, qu'elle traverse, qu'elle traverse. Je prie pour mon bien-aimé, Seigneur, mon Dieu. Tu visites sa vie, Seigneur, mon Dieu. Tu bénis sa vie, Seigneur. Enfin, qu'elle prospère, qu'elle monte, Seigneur, qu'elle s'élève, mon Dieu, elle s'élève très haut. Oh, révèle-lui son nom, révèle-lui le nom que tu as mis en elle, révèle-lui son audience, révèle-lui, Seigneur, mon Dieu, les problèmes, les problèmes.
Dans leur entourage, dans leur génération.
Il découvre son service. Il découvre son problème. Le problème, il y a un problème que tu dois connaître. Concentre-toi sur le problème que tu dois connaître. Il y a des problèmes que tu dois résoudre. Il y a des problèmes autour de toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il y a des problèmes qui n'attendent que toi. Il y a des problèmes qui n'attendent que toi. Il y a des besoins qui n'attendent que toi. À cause du nom particulier que tu as, il est dans la chute. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Que le voile soit ôté maintenant. Que le voile soit ôté maintenant. On ne sera plus appelé consommateur. On ne sera plus appelé consommateur. Oh, les barbares, on sera appelé producteur. On sera appelé maintenant. Au nom de Jésus, nous changeons de nom. Nous changeons de nom. Car notre Dieu est prospère. Car notre Dieu est prospère. Car notre Dieu est prospère. Je suis celui qui nourrit, je suis celui qui approvisionne, je suis celui qui répond aux besoins de plusieurs, je suis celui qui relève plusieurs, je suis celui qui relève plusieurs. Quel est n'attends pas d'être très élevé pour relever. Déjà là où tu es, il y a des gens que tu peux relever. Déjà là où tu es, il y a des gens que tu peux relever. C'est comme ça que tu vas enclencher le mécanisme. C'est comme ça que tu vas enclencher le mécanisme. Que ce mécanisme soit enclenché maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que les gens qui sont autour de toi soient relevés par toi. Que plusieurs qui sont abaissés autour de toi soient relevés par toi. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'une vision puisse te relever. Qu'une révélation puisse te relever. Maintenant dans le nom puissant de Jésus. Maintenant dans le nom puissant de Jésus, tu te réveilles maintenant. Ton cerveau qui était endormi se réveille maintenant. Ton cerveau qui était endormi, où tu croyais que tu n'avais plus rien à faire, où tu croyais que tu ne pouvais plus concevoir quoi que ce soit. Tout n'a pas encore été créé, tout n'a pas encore été inventé. Et dans la chambre, que l'esprit de créativité, que l'esprit de créativité, que la créativité, que la créativité, que l'imagination, au nom de Jésus, que l'audace, que l'audace, que l'audace, que l'audace, l'audace maintenant. Au nom de Jésus. Tout n'a pas encore été fait. On attend tes inventions. On attend la manifestation de ta vie. On attend ce que tu vas apporter au monde. Il y a ta famille qui attend. Il y a ton entourage qui attend. Au nom de Jésus, cesse de pleurer sur ton sort. Mais pleure pour le sort des autres. C'est comme ça que tu prospéreras. Tu es là pour essuyer les larmes de quelqu'un. Tu es là pour consoler quelqu'un. Tu existes pour réconforter quelqu'un. Tu existes. Hey! Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un. La tragédie que tu as vécue en 2014 existe, a existé pour que tu sois une bénédiction pour quelqu'un en 2015. C'était pas pour rien que Dieu t'a laissé passer par là. Tu es descendu, mais c'est pour monter. C'est pour être une source de bénédiction pour quelqu'un. Utilise ça, utilise ça. Commence à étudier ce problème. Commence à étudier cette difficulté. Car de là va sortir une grande créativité. Une grande créativité. On a longtemps gaspillé nos tragédies, gaspillé nos tourments. Cette enfance difficile que tu as reçue, que tu as eue, tu n'oses même pas en parler, comment tu étais gang de rue, comment tu fonctionnais comme ça. Il est temps que tu utilises cela. Il est temps que tu utilises cela. Il est temps que tu utilises cela. Il y a des gens qui vont être épargnés. Il y a des gens qui vont être sauvés par cela. Les choses qui t'ont fait le plus pleurer, que tu n'oses pas en parler. Cela fait partie aussi de ton expertise. Dans le nom puissant de Jésus, reçois maintenant. Reçois maintenant cette onction, cette puissance, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis ton peuple, je déclare le shalom de Dieu, le shalom de Dieu, le shalom de Dieu, le shalom de Dieu, que tu prospères à tous égards, que tu prospères dans ton être, que tu prospères dans tes fins, dans ce que tu fais, que tu prospères dans ce que tu as, que tu prospères au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la capacité de gérer le peu que tu as, afin de te confier plus. Plus maintenant, alléluia, plus maintenant, oui, tes mains tendues reçoivent maintenant le plus de Dieu. Il y a un plus. Je relâche cela, Seigneur. Un relâchement pour ceux qui sont en prison. Sors de là maintenant, car Pharaon a un problème qui nécessite ta solution. Au nom de Jésus, que l'Éternel maintenant puisse marier les problèmes aux solutions. Marier les problèmes que tu rencontres aux solutions que tu es. Maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Merci de le faire, Seigneur. Tu fais au-delà de ce que nous pensons en demandant. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour doter les écailles. Merci, Seigneur, pour l'esprit de révélation, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous recevons cela, Seigneur. Merci parce que nous ne serons plus jamais les mêmes, Seigneur. On entendra parler de nous. Seigneur, on entendra parler de ce que tu fais au travers de nous, Seigneur. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, je bénis cette assemblée. Je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, à cause de ce que tu fais. Seigneur, ce sont des serviteurs et des servantes qui produiront dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.